prennent comme texte de base la fin de Romains chapitre 7 et le début de Romains 8. On est souvent dans ce secteur-là lorsqu'on essaie de comprendre la grâce, lorsqu'on essaie de comprendre la loi de Dieu et la loi de l'Esprit, la loi de l'Esprit de Dieu. Donc normalement Romains 6, 7 et 8 ne forment qu'un bloc, donc il faut les lire ensemble. Et j'ajouterai Romains 5 parce que c'est une bonne introduction à Romains 6, 7, 8. Donc c'est important, je crois, de lire les choses ensemble, mais on ne va pas les lire ce matin, mais ça c'est des choses à faire chez soi. Et il y a énormément de contenu pour comprendre le message de l'Évangile. Alors ici, à la fin du chapitre 7, l'apôtre Paul parle, et le début du chapitre 8, l'apôtre Paul parle de trois lois. Et je trouve les lois très intéressantes parce que ce sont des choses fiables. Quand on parle de loi, on a quelque chose de sûr, quelque chose qu'on peut analyser, qu'on peut comprendre facilement, parce qu'on ne la voit pas, la loi. On ne voit pas les lois, mais on en sent les effets. Par exemple, la loi de la gravitation, on ne la voit pas. La plupart d'entre nous ne pouvons pas l'expliquer. Elle est tout à fait explicable, mais on ne peut pas l'expliquer parce que juste on était mauvais en physique, ou on n'était pas du tout intéressé, ou on n'a jamais fait de physique. Eh bien, on ne peut pas l'expliquer, mais on sait ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que on peut dire, je sais ce que c'est la loi de la gravitation. Si je trébuche, je tombe par terre, je ne vais pas tomber vers le plafond, ou monter vers le plafond plutôt. Je vais tomber par terre. Si je lâche un objet, il va tomber et se casser. On comprend les lois facilement et je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose de fiable, quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on vit. Donc, évidemment, vous voyez où je viens, c'est de savoir quelles sont les lois qui s'exercent sur nous, quelles sont les lois dont les manifestations sont visibles au travers de nous. Et on trouve ici qu'il y a trois lois qui nous gèrent. Et c'est les questions de la loi du péché. Vous la connaissez bien, cette loi. D'accord ? C'est-à-dire, on en voit les effets sur notre vie. On ne peut pas tout expliquer quelquefois. Les gens qui ne connaissent pas le texte de la Bible ne peuvent pas l'expliquer, mais ils savent que cette loi, elle est réelle. Cette loi doit être comprise, doit être connue, doit être reconnue. Vous savez que ceux qui prêchent dans les prisons, ils ont souvent un public silencieux, extrêmement silencieux, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pécheurs. Ils comprennent cette loi. Ils entendent pour la première fois peut-être l'Évangile. Peut-être ils n'ont rien compris du texte de la Bible, ou ils ne l'ont jamais entendu, ou c'est un très vieux souvenir, mais ils savent ce que c'est, le péché, parce qu'ils savent ce que c'est, cette loi qui s'exerce sur eux. Et c'est cette première loi dont il est question. Par exemple, à la fin du chapitre 7, ça se termine en disant « Je suis esclave de la loi du péché ». On voit une autre loi qui est mentionnée dans ce secteur-là, fin du chapitre 7, début du chapitre 8, qui est la loi de Dieu. Et ça, là aussi, on connaît la loi de Dieu. Il s'agit des 10 commandements et de toutes les lois de Dieu qui sont mentionnées dans le livre d'Exode, par exemple, ou Lévitique. Et donc là, on comprend aussi ce que c'est et on a connaissance et on a aussi l'ordre de transmettre cette loi à nos enfants et d'enseigner ces lois. C'est donc la loi de Dieu. Et il y a une troisième loi dont il est question au début du chapitre 8, c'est la loi de l'esprit de vie. Donc il y a trois lois qui nous gèrent, la loi du péché, la loi de Dieu et la loi de l'esprit de vie. Et c'est merveilleux qu'il y a une distinction entre la loi de Dieu et la loi de l'esprit de vie. Vous allez dire, mais l'esprit de vie, c'est Dieu, donc la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de Dieu. Vous avez raison. Mais il y a un distinguo ici qui est important. La loi du péché, on sait qu'elle s'exerce sur nous. Il n'y a personne ici qui peut dire « je n'ai jamais péché ». Et le dilemme qui est, ou le conflit qui est mentionné là dans ce passage de Romains, c'est précisément ce que tous les hommes et les femmes expérimentent, c'est que le péché est une puissance qui agit sur nos vies. Le péché, ça veut dire manquer la cible. Ça veut dire que je suis en train de manquer la cible systématiquement. Quand je dis « je parle en tant qu'être humain. L'être humain rate la cible. Il essaye de viser quelque chose de juste. Il essaye de viser quelque chose de droit. Il essaye d'atteindre un but honorable, mais il rate. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir réussir. Et beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir mener une vie correcte. Mais s'ils sont honnêtes, ils doivent reconnaître que la puissance qui dirige leur comportement, c'est la puissance du péché, c'est-à-dire la puissance de l'échec, le fait de ne pas atteindre la cible. On sait pourquoi le péché est venu dans le monde. On sait que cette puissance, elle est venue dès lors que Adam et Ève ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix du diable à la place. Et on est donc esclave de cette loi. C'est une réalité qu'il faut connaître et reconnaître. Si on vient dans le milieu, si on se déclare chrétien, par transition progressive, c'est-à-dire on rentre dans une église et puis progressivement on commence à adhérer aux idées de l'église, on commence à penser comme les gens qui vont dans l'église et finalement un jour on dit « ben voilà, je crois que je suis chrétien, je vais me déclarer chrétien ». On fait une erreur très grave. Parce qu'on n'est pas arrivé à ce point où on a reconnu qu'on était pécheur. Le salut commence par la reconnaissance que cette loi agit sur nous et que nous ne pouvons pas la contrôler. Le salut commence par la repentance. Il ne peut pas y avoir de conversion au Seigneur sans tomber à genoux. Peut-être pas physiquement, littéralement, mais dans le cœur, en reconnaissant qu'on est pécheur. Vous allez peut-être dire, mais moi, j'ai jamais fait vraiment de mal dans ma vie. J'ai, comme disent certains, pas fait de mal à une mouche. Bon, ceux qui disent ça sont souvent des gens qui ont quand même des mouches qui pourraient rendre témoignage qu'ils leur ont fait mal. Mais voilà, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais fait de mal parce qu'ils ont été bien élevés, etc. Et c'est pour cela que pour ces gens-là, l'évangile est très difficile à connaître parce qu'ils ne savent pas toujours ce que c'est la puissance du péché. Ils en sont esclaves, mais la société a décoré, a mis du maquillage et ça donne l'impression qu'ils ne sont pas trop pécheurs, mais ils sont les pécheurs. Ils sont, même s'ils ont eu une bonne éducation, même s'ils ont été des bonnes gens, eh bien, ils ont besoin de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Et cette loi du péché, quand elle est rentrée dans le monde, il a fallu une autre loi qui soit énoncée à cause de cette loi du péché. Au début, il n'y avait qu'une seule loi, une seule parole, la parole de Dieu et la loi de l'esprit de vie. Mais à cause de la loi du péché qui est venue dans le monde suite à la désobéissance, il a fallu la loi de Dieu. Il a fallu que la loi vienne, Jean chapitre 1 nous dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la loi est venue par Moïse. Mais si vous lisez Romains 5, il y a un détail qui est très important, qui est bien traité dans Romains 5. Si la loi est venue par Moïse, la mort était déjà là entre Adam et Moïse. Dans toutes ces années, il y avait le résultat du péché. Et il y a eu finalement la loi de Dieu qui a été manifestée. Alors la loi de Dieu, elle est extraordinaire, mais elle est terrible, parce qu'elle n'a pas de puissance, ou elle a très peu de puissance. Et la seule puissance qu'elle puisse avoir à un moment donné, c'est si l'esprit de vie incarne cette loi. Mais la loi de Dieu, si elle n'est pas incarnée par l'esprit de Dieu, elle est sans puissance. L'apôtre Paul dit ça très clairement, que la chair la rendait sans force, cette parole de Dieu, cette loi de Dieu. Et la loi, elle est là pour montrer, pour incarner ce qui est la volonté de Dieu. Mais en faisant ça, elle incarne ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si je dis, voilà ce que vous devez faire, ou voilà ce que vous ne devez pas faire, quand je dis, voilà ce que vous devez faire, je dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire, je dis, voilà ce qu'il faut faire. Et la loi de Dieu, elle nous montre, mais elle ne nous délivre pas. Elle n'a pas la puissance de nous délivrer. Elle nous montre ce qui ne va pas. Elle nous fait tourner les regards vers ce qui ne va pas. Et j'aimerais reprendre un récit que vous connaissez bien. Lorsque dans le désert, encore une fois, le peuple avait désobéi, s'était détourné de Dieu, il envoyait des serpents brûlants. Et les Israélites étaient mordus par ces serpents. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un serpent, tu vas représenter ce serpent. Et tu vas le mettre sur un poteau pour qu'on le voie. Et ceux qui auront les regards tournés vers ce serpent d'airain, eh bien, seront guéris. Très étrange. Dieu avait dit à Moïse, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation des choses qui sont sur la terre, etc. Et Dieu lui dit, fais une représentation. Et en plus d'un serpent. Très frappant. Mais c'est Dieu qui a dit, fais la représentation de ce serpent. Moïse est mort sans savoir probablement pourquoi Dieu lui a demandé ça. Mais nous, on le sait parce qu'on a lu Jean chapitre 3, où il est dit, comme le serpent fut élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Juste avant le Jean 3,16, c'est facile à trouver si vous voulez ce passage. Et il fallait cette représentation de ce qui était mal. Ça montrait ce qui était l'origine de la souffrance de l'homme, de l'humanité. Et il fallait que les Israélites regardent vers ce serpent pour pouvoir être guéris. Et il faut passer par cette conscience de ce qui est mal. Mais c'est ce que la loi fait, c'est nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Ça nous fait prendre conscience de ce qui est mal, mais ça ne nous délivre pas du mal. La conscience ne peut pas nous délivrer. Elle nous fait souffrir d'une certaine façon. Et dans ces chapitres 6 et 7 de Romains, l'apôtre Paul développe beaucoup cette idée que la loi, en fait, elle me fait prendre conscience du péché. Donc elle me fait souffrir. Parce qu'elle ne me délivre pas, elle me montre ce que c'est. On doit l'enseigner, les Israélites devaient enseigner aux enfants, comme il a été lu dans Proverbes chapitre 3 tout à l'heure. Il fallait enseigner à ses enfants, il fallait connaître la loi, il fallait la méditer jour et nuit afin de ne pas l'oublier. C'est très intéressant de savoir que Jésus a dit « Je suis le chemin ». La réalité ou la vérité et la vie. Et que la réalité, comme on le dit souvent en grec ici, ça veut dire l'absence d'oubli. Parce qu'il y a une différence entre la loi de Dieu et la loi de l'esprit de vie. C'est que la loi de Dieu, il faut toujours la garder devant ses yeux, il faut toujours la relire, il faut toujours s'y référer. Tandis que la loi de l'esprit de vie, quand on l'a rencontrée, on ne l'oublie pas. Les hommes et les femmes qui ont rencontré la loi de l'esprit de vie ne peuvent pas l'oublier. Parce que cette loi, c'est la vérité, c'est l'absence d'oubli. On ne peut pas l'oublier. Mais quant à la loi, elle est rappelée aux hommes. Elle est rappelée comme un décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils auraient dû faire. Elle est là pour rappeler que la cible, elle était là et vous avez tiré à côté. Elle est un écart, elle montre un écart entre ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait être et ce que vous êtes réellement. J'avais un ami à l'armée qui était... Il est prêtre catholique maintenant, mais c'était le prototype de celui qui était à côté de la plaque. C'était un gars extrêmement sympathique. Mais il fallait aller à les séances de tir avec lui. C'était extraordinaire parce que sur 5 tirs faits, il avait 0 sur sa cible et le voisin avait 8 sur 5 tirs. Il avait 8 trous. Etc. Et l'autre voisin en avait 2 de plus, etc. Voilà. C'était. Mais voilà ce que la loi nous montre, le résultat. Vous avez raté la cible. Quand on lit l'évangile de Jean, j'aime bien l'évangile de Jean, et quand on a un modèle, j'aime bien repasser les témoignages. Et là, je vais en prendre quelques-uns de l'évangile de Jean, qui montre la prise de conscience que donnait la loi concernant le péché. Et le premier témoignage, c'est dans Jean chapitre 2, que vous connaissez, j'espère en tout cas. Et si vous ne le connaissez pas, on peut vous donner l'évangile de Jean. Mais il faut le connaître, cet évangile. Tellement un contenu extraordinaire. Eh bien, dans Jean chapitre 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est raté. Il y a une cible qui n'est pas atteinte. Et c'est qu'il n'y a pas assez de vin. Alors, pour les Français, c'est un grand échec, mais là, apparemment, c'était aussi un grand échec pour le mariage. Qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et Jésus était là. Mais il a fallu prendre conscience de l'écart entre ce qui aurait dû être et ce qui était réellement pour pouvoir venir chercher Jésus et lui dire « Ils n'ont pas assez de vin ». le fait de voir l'écart, le fait de voir qu'on avait raté la cible, c'était un échec. Et la loi nous montre l'échec, nous montre l'écart. Et la loi de Dieu rend insupportable notre vie, parce que elle montre le péché, mais elle ne peut pas résoudre la question du péché. Ici, il a fallu l'intervention de l'Esprit de vie, il a fallu l'intervention de Jésus pour que ce problème soit réglé. Et c'est pas que Jésus disait « oui, c'est important que les gens puissent boire encore ». Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il a montré, il a manifesté qu'il était là pour rétablir ce qui aurait dû être, pour supprimer ce ratage de cible, pour que la cible qu'il fallait atteindre puisse être atteinte. C'est ça le premier miracle de Jésus. Dans le même chapitre, vous avez Jésus qui chasse les vendeurs du temple. C'est un des deux récits où il l'a fait. Il chasse les vendeurs du temple. Parce que là aussi, il y avait une cible qui était ratée. Vous avez fait de la maison de mon père qui devait être une maison de prière. Vous en avez fait un endroit de vol. Et il y avait quelque chose qui était raté. Quelque chose qui se faisait mais qui n'aurait pas dû être fait. Ce n'était pas le bon endroit. Et Jésus a été radical pour être l'esprit de vie qui pouvait régler la situation. Il n'a pas juste donné des paroles. Il a été l'esprit de vie, mais il a montré l'écart. Et en cela, il était la loi, mais il a réglé aussi la situation. Vous avez le récit, tout au début de Jean, de cet homme qui est venu vers Jésus et qui a dit « Mon fils est malade ». Combien d'hommes et de femmes, combien de parents viennent à Jésus pour dire « Mon enfant est malade, mon enfant est spirituellement malade ». Et Jésus, lorsqu'il a reçu cet homme, il a commencé à dire oh, « Si vous ne voyez pas des miracles, vous n'avez pas la foi ». Il n'a pas dit ça, je pense, à l'homme spécifiquement, mais il a dit ça autour. Voilà encore quelqu'un qui demande un miracle. Et ce qui me frappe, c'est la réponse du papa. Il n'a pas juste dit oh, « c'est vrai ». Il a dit « mais mon enfant est en train de mourir ». Jésus ne me parle pas de ce qui ne va pas. Ne me parle pas de la loi. Je sais ce qui ne va pas. Mais mon enfant est en train de mourir. Et dit une parole et il sera guéri. Et la loi que Dieu rappelait, que Jésus rappelait en disant « Vous êtes incrédule à moins de voir des miracles », eh bien, elle a été remplacée par l'esprit de vie qui animait Jésus, qui a pu guérir cet enfant. Dans le chapitre 4 avec la Samaritaine, il y a ce même récit. Jésus dit à la Samaritaine, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Il a touché, il a donné la loi, il a rappelé la loi. Mais ce n'était pas la loi qu'elle voulait, parce qu'elle savait que c'était mal. La loi lui avait déjà montré l'écart dans sa conduite, l'écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'elle fait réellement. Mais Jésus lui a donné la possibilité de vivre l'esprit de vie, Jésus lui a donné l'esprit de vie pour que ça ne soit plus la loi qui trouble sa conscience, mais la possibilité de vivre en accord avec la parole de Dieu, de vivre en accord avec cet esprit de vie. Je trouve ça extrêmement merveilleux. C'est ça qui a libéré cette femme. Jésus lui a rappelé la loi, parce que la loi de Dieu, et bien sûr, elle vient de Dieu. Donc elle est bonne, mais il lui a rappelé la loi, mais il lui a donné la puissance de connaître la vie de l'Esprit. Peut-être ce matin, on connaît la loi de Dieu. On a une grande conscience de ce que c'est la loi de Dieu. Et on n'a pas la loi de l'Esprit. Et la rencontre avec Jésus-Christ va se faire lorsqu'on reçoit la loi de l'Esprit de vie qui nous donne la possibilité de ne plus rater la cible. Ça, c'est le chapitre 4, témoignage remarquable de cette femme. Dans le chapitre 5, vous avez cet homme qui est à la piscine de Bethesda et qui est là en train d'attendre la guérison depuis très longtemps. C'est pas la peine d'aller lui dire qu'il a raté la cible, parce qu'il aurait dit: je suis l'incarnation de l'échec. L'échec à cause de son état physique, l'échec parce qu'à chaque fois qu'il a fait des tentatives pour être délivré, pour être guéri, pour être libéré, ça a toujours raté. Et combien il y a de gens autour de nous qui ne vivent que des échecs. Je ne sais pas comment les gens vivent quelquefois quand je vois ce qu'ils vivent. Tout ce qu'ils font, c'est pour garder la tête hors de l'eau à peine, et encore, ils savent qu'un jour ils ne pourront plus. Et le Seigneur lui a dit: est-ce que tu veux être guéri? Ça paraissait bien. Le paralytique ne lui a pas répondu à sa question. Il a fait remarquer qu'à chaque fois qu'il essayait, ça ratait. Et il a fallu que l'esprit de vie lui dise: prends ton lit et marche, lève-toi. L'esprit de vie l'a saisi et de son état de paralytique, il a pu connaître la puissance de Dieu. Jésus n'a pas commencé à lui rappeler son échec. Il n'a pas commencé à dire: voilà, tu as allongé depuis combien d'années, ça doit être terrible, j'aimerais pas être à ta place. Il a donné la libération. Beaucoup d'entre nous, on a peur quand on a un décalage entre la cible qu'il fallait atteindre et ce qu'on a atteint. On a peur d'aller vers le Seigneur parce qu'on dit: il va mettre en avant ce décalage. Mais sachez que le but de Jésus, si vous venez à lui, c'est de vous donner l'esprit de vie, de vous permettre de vivre conformément à sa volonté. Et il a donc bien sûr libéré ce paralytique. Et ce paralytique était tout heureux. Il a dû faire face à la loi des pharisiens qui lui ont rappelé la loi de Dieu. Et oh, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Ils n'avaient rien compris. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'esprit de vie. Ils étaient en train de montrer le décalage entre la loi de Dieu et la loi et ce que cet homme faisait. Mais lui, il comprenait visiblement rien du tout, mais il était heureux. Et c'est ça qui était le témoignage. Il était heureux. pouvez pas expliquer ce qui s'est passé. Dans Jean chapitre 8, alors il y a Jean chapitre 6, bien sûr, un autre échec, un autre décalage, c'est la multiplication des pains. Et là, les disciples n'ont pas assuré, parce qu'ils connaissaient Jésus, ils savaient que quand il commençait à prêcher, les foules l'écoutaient avec une attention extraordinaire, parce qu'il communiquait la parole de vie. Et donc, ils auraient dû prévoir à manger pour la foule. On ne laisse pas partir des gens après une longue réunion, quand ils doivent marcher des kilomètres, bien sûr avec la voiture, ce n'est pas un problème, mais à pied, des femmes, des enfants qui devaient rentrer comme ça sans force. Il y avait un décalage, ils auraient dû prévoir à manger. Mais ils n'auraient probablement pas pu le faire, tant la foule était importante. Donc ils étaient là en train de paniquer, qu'est-ce qu'on va faire? Ça leur a dit, donnez-leur à manger vous-même. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Quand on a des situations impossibles, on a des gens qui sont visiblement en échec total devant nous. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rétablir ça. Le Seigneur nous dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur l'esprit de vie que vous avez reçu. Transmettez-leur au nom de Jésus ce que vous avez reçu. Dans le chapitre 8, les pharisiens étaient là pour montrer ce qui ne va pas, pour rappeler la loi. On est entouré de gens comme ça. Quand on va voir le médecin, il nous dit, nous demande ce qu'on aime manger, et il va dire, comme je prends une tirade de la grande vadrouille, je suis désolé de la référence, mais vous aimez ce qui est bon, c'est très mauvais. Et on nous dit ça. Ensuite, on peut être très fâché contre le pèse-personne, parce qu'à chaque fois que je monte dessus, il me montre que ça ne va pas. Qu'il y a un écart entre ce qui devrait être et ce qui est affiché. Alors on peut s'énerver contre le pèse-personne, on peut refuser d'aller voir un médecin parce qu'ils disent toujours des mauvaises choses, des choses négatives. Comme disait quelqu'un que je connaissais, dont j'appréciais beaucoup l'humour, il disait, quand je reçois mon bilan de prise de sang, tout ce qui est bon, c'est le nom et l'adresse. Tout le reste ne va pas. Mais cela nous montre le décalage. Mais quand on fait une prise de sang, ça nous montre ce qui ne va pas, mais ça ne règle pas ce qui ne va pas. Quand on se pèse sur la balance, ça nous montre qu'on est trop lourd, mais ça ne fait pas, j'ai déjà essayé, ça ne fait pas maigrir, ça ne fait pas perdre du poids. En tout cas, ici, Jésus, on amène à Jésus cette femme adultère qui avait péché. Elle était consciente de l'écart. Elle était consciente de son péché. Mais les pharisiens mettaient l'emphase sur ce qui ne va pas. Le diable met l'emphase sur ce qui ne va pas. Il utilise la loi de Dieu pour accuser. Jésus utilise la loi de Dieu pour libérer, pour affranchir, pour donner l'esprit de vie. Est-ce qu'on connaît l'esprit de vie ou est-ce qu'on a peur de s'approcher de Dieu ce matin en disant « J'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie et j'ai peur. » Vous voyez effectivement l'écart. Vous voyez, vous êtes conscient de l'écart entre ce que vous devriez être et ce que vous êtes réellement. Mais vous avez peur. Mais allez à Jésus. Et Jésus vous donnera l'esprit de vie si vous lui demandez. Et à cette femme adultère, il a dit que le premier qui est sans péché lui jette la pierre. Et après, il a dit à la dame, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse encore ?» Il n'y avait personne qui l'accusait. Il avait déjà réglé ce problème de péché en sa vie. Il n'y avait plus d'accusation. Ce n'est pas seulement que les hommes ne l'accusaient plus, c'est qu'elle sentait que la loi de Dieu ne l'accusait pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu a dit la loi de Dieu, ça sert, c'est pas grave maintenant, ton péché, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas du tout ça. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Le péché est grave. Mais quand il nous montre la gravité du péché, il nous montre le moyen d'en sortir. Il donne la puissance d'en sortir. Tandis que la loi ne fait que me montrer ce qui ne va pas. Cette femme a dû vivre le reste de sa vie totalement libre. Elle ne pouvait pas oublier. Elle ne pouvait pas oublier cette rencontre avec Jésus-Christ. La loi de Dieu, elle devait la réviser. Elle devait l'enseigner à ses enfants. Elle devait cultiver cette connaissance. Mais cette rencontre avec Jésus, ça l'a marqué. Et je suis troublé quand les gens ne peuvent pas dire quand ça s'est passé dans leur vie. Je ne mets pas en doute. Pour certains, ça peut être très spécial. Mais généralement, on n'oublie pas. Une très chère sœur qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer ne reconnaissait plus même ses enfants. Et un de ses enfants lui a dit, « Mais tu n'as pas oublié Jésus. » Et elle a dit, « Comment oublierai-je mon Sauveur ?» On ne peut pas oublier. Même la maladie ne peut pas vous faire oublier. Elle peut vous faire oublier tous les commandements. Si on avait demandé à cette dame de réciter les 10 commandements, elle n'aurait pas pu. Mais elle savait qu'elle avait rencontré le Sauveur et ça, elle ne pouvait pas l'oublier. Parce que celui qu'elle a rencontré s'appelle l'absence d'oubli. Je suis la vérité, Jésus a dit. Si vous avez la vérité en vous, vous n'avez pas cet oubli. Vous connaissez chapitre 9 avec cet aveugle. Encore un échec. Encore quelqu'un qui était en décalage entre ce qu'il aurait dû être et ce qu'il était réellement. Et la marginalité était très forte à l'époque parce que la maladie avait des implications sociales très importantes. Le rejet, la mise à l'écart, le fait de ne pas pouvoir travailler, le fait donc de ne pas avoir à manger, etc. Et pour cet homme, c'était quelque chose de difficile à vivre. Il n'avait pas besoin qu'on lui témoigne de l'écart entre ce qu'il aurait dû connaître et ce qu'il connaissait. Mais il avait besoin de rencontrer celui qui est l'esprit de vie et qui pouvait donner la vie et la vue. Et c'est là ce qui s'est passé pour lui. Et ce matin, on a besoin peut-être que nos yeux s'ouvrent. On a besoin que le Seigneur fasse un miracle dans notre perception. La perception des choses, la perception des autres, la perception des circonstances de la vie, des gens qui sont toujours amers, des gens qui sont toujours critiques, les gens qui voient les défauts chez les autres. Si le Seigneur touche, intervient, il ne va pas te montrer qu'il y a un problème. Il va, si tu le laisses faire, te guérir de l'aveuglement. Et si tu commences à voir ce qui est bon chez les autres et ce qui est mauvais chez toi, c'est que Jésus t'a déjà guéri ton aveuglement. Mais les gens qui voient ce qui ne va pas chez les autres et qui ne voient pas le problème dans leur propre vie, eh bien, ceux-là ont besoin de venir à Jésus. pour être guéri de l'aveuglement. Ceux qui voient tout en négatif, ceux qui voient les choses qu'ils vivent comme étant des tragédies, alors que c'est banal, alors qu'il y a sur la terre des millions d'autres personnes qui vivent des situations bien pires que la leur. Ils ont besoin que Jésus guérisse. Ils ont besoin de venir à Jésus. Vous pouvez finir le livre de Jean en voyant et regarder les autres évangiles, en voyant à chaque fois, dans chaque témoignage, que l'esprit de vie est venu sur la personne, non pas pour lui dire il y a un décalage entre ce que tu devrais être et ce que tu es, mais pour donner la vie qui permet que ce décalage ne soit plus. Et on peut simplement remercier le Seigneur d'avoir connu cette vie de l'Esprit qui nous permet de ne plus pécher, de ne plus être dans ce décalage entre ce que Dieu veut et ce que nous sommes. Vous allez dire, c'est pas possible de ne plus pécher. La chose, c'est que notre cœur ne veut plus péché. On peut tomber, bien sûr, on peut tomber dans le péché. On est tellement faible, on est tellement misérable qu'on peut tomber dans le péché. Mais il y a quelque chose qu'on n'oublie pas de la rencontre avec Christ qui nous fait désirer de rester avec lui, désirer de sa présence qui nous protège du mal. Et ça doit être le cas. Et si ça n'est pas le cas, parlez à un frère ou une sœur de l'Église de confiance et dites-lui, je voudrais aujourd'hui, je voudrais connaître l'esprit de vie. Je voudrais connaître la vraie vie de l'esprit. Pas connaître la loi, je la connais la loi, je sais que c'est mal. Si vous sentez condamné quelquefois, les condamnations ne sont pas justes. Les hommes ont jugé, ont dit quelque chose de très dur. Et les personnes se sentent condamnées à cause de ce qui a été dit dans une église. Des choses invraisemblables parfois. Où on a exigé aussi à des gens de faire quelque chose parce qu'ils ont péché. On leur a exigé de faire quelque chose qui était trop dur pour eux. Et ils ont constamment le sentiment qu'ils sont rejetés par Dieu parce qu'ils ont été rejetés par l'Église. Quelquefois, je me demande si Jésus resterait sur le parking parce qu'il ne voudrait pas être associé avec certaines choses qu'on peut dire qui condamnent les gens. Et il voudrait qu'on le rencontre dans un autre contexte. Mais je ne voudrais pas que ce soit le cas. On ne voudrait pas que ce soit le cas. On voudrait que Jésus puisse venir ici et qu'il voit que c'est sa parole qui est prononcée, que c'est sa puissance qui est prononcée. Donc si vous avez la culpabilité sur la conscience, quelque chose qui vous trouble, vous pouvez demander la prière et demander que le Seigneur viennent vous donner l'esprit de vie ce matin qui va vous permettre de toucher la cible. Et la cible, c'est Dieu lui-même. Amen. On va juste prier et faire un moment de silence. Seigneur, tu es merveilleux parce que non seulement tu énonces la vérité. Seigneur, la loi permet à ta volonté d'être incarnée. Mais Seigneur, en incarnant ta volonté, elle incarne une condamnation. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas capables. de vivre selon ta volonté. Mais Seigneur, tu nous libères, Seigneur, de ça, en nous donnant l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Seigneur, je voudrais recevoir l'Esprit de vie ce matin davantage, être rempli de ton Esprit de vie pour pouvoir pratiquer ce qui te plaît, pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Et Seigneur, que dans cette Église, ce soit toujours le cas aussi. Amen.